5h30 à Paris, une heure de moins en temps universel. À l'actualité africaine, bonjour Nemo Ampis.
Bonjour Clotilde Dumay, bonjour à tous. Les deux chambres du Parlement congolais réunies hier en congrès à Kinshasa. L'occasion pour Félix Tshisekedi de prononcer son traditionnel discours sur l'état de la nation. Outre des progrès économiques et d'un éventuel débat autour d'une réforme constitutionnelle, le président a une nouvelle fois pointé du doigt le rôle du Rwanda quant à la situation dans l'est du pays. Vous l'entendrez. La MONUSCO répond à Amnesty International au lendemain de la publication d'une enquête sur le massacre perpétré à Goma le 30 août 2023 et dans laquelle l'ONG dénonce la responsabilité de l'armée mais aussi de la mission de l'ONU. Le non-lieu général confirmé. Hier, la cour d'appel de Paris a tranché dans l'enquête sur l'inaction reprochée à l'armée française lors des massacres de Bisesero en plein génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. Nouvelle déception à Kigali, nous y sommes dans ce journal. Puis à Antananarivo, au lendemain des élections locales, Sara Teto a assisté à une soirée de dépouillement dans un bureau de vote de la capitale malgache. Elle nous en fait le récit. C'était son premier discours à la nation depuis sa réélection en fin d'année dernière. Félix Tshisekedi s'est exprimé hier devant le Parlement réuni en congrès à Kinshasa. Le président qui en a profité pour dresser un bilan très flatteur sur les réalisations du gouvernement dans divers secteurs de la vie socio-économique, reconnaissant tout de même que malgré ses progrès réalisés, la sécurité demeurait un défi majeur pour la RDC. Félix Tshisekedi, qui dans sa prise de parole s'en est une nouvelle fois pris au voisin rwandais, il accuse désormais Kigali de repeupler certaines parties de l'Est par des étrangers. Je vous propose de l'écouter.
Notre pays reste confronté à des rébellions persistantes, dont l'agression de l'armée rwandaise et des terroristes du M23 qui entravent la stabilité nationale, le développement et l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Ces ennemis de la République continuent d'occuper une partie des territoires de Rutshuru, Masisi, Nyiragongo et Lubero, provoquant un afflux massif de déplacés internes. Grâce à la détermination de nos forces armées et au soutien de la communauté de développement de l'Afrique australe, la SADC, nous avons repoussé les agresseurs et leurs supplétifs qui comptaient sur une victoire facile et immédiate. Au-delà des déplacements massifs de population provoqués par la guerre, un phénomène alarmant s'observe. Le dépeuplement progressif de certains territoires stratégiques, suivi de leur repeuplement par des populations étrangères implantées par le Rwanda.
Félix Tshisekedi, qui doit d'ailleurs rencontrer son homologue rwandais Paul Kagame ce dimanche à Luanda, à l'invitation du président angolais João Lourenço pour une nouvelle réunion sur la situation dans l'est de la RDC. J'ajoute que dans son discours, le chef de l'État congolais a également évoqué la possibilité d'un débat autour d'une réforme constitutionnelle. Vous entendrez les réactions de la classe politique dans nos prochaines éditions de 6h30 et 7h30, heure de Paris. On vous en parlait hier sur RFI. Amnesty International a rendu public un rapport dans lequel elle accuse certains officiers de l'armée congolaise de possibles crimes contre l'humanité après le massacre perpétré à Goma le 30 août 2023. Ce jour-là, les forces de sécurité avaient ouvert le feu sur des manifestants qui réclamaient le départ de la MONUSCO, faisant au moins 56 morts et 80 blessés. L'armée avait fait part de bévues suite à cet événement, mais l'ONG de défense des droits humains assure dans ce même rapport que les soldats s'était livré à une folie meurtrière. Amnesty International qui a également pointé du doigt la mission onusienne, l'accusant d'avoir joué un rôle trouble en demandant aux autorités d'interdire ce rassemblement, puis en minimisant l'ampleur du massacre. Ce matin, la porte-parole de la MONUSCO, Dei Khadilo, rejette ces accusations.
En août 2023, la MONUSCO avait reçu des informations faisant état de manifestations violentes planifiées contre les casques bleus, un risque réel pour les civils et pour son staff. La MONUSCO avait alors contacté les autorités nationales et provinciales de la République démocratique du Congo afin de souligner ses préoccupations concernant ces menaces. Elle avait aussi insisté sur la nécessité pour les autorités congolaises de s'engager proactivement afin d'éviter des pertes en vies humaines, appelée au respect de la liberté d'expression et de la liberté de manifestation pacifique. Je tiens à rappeler que la MONUSCO n'a pas participé à la répression violente des événements du 30 août 2023. Par ailleurs, le bureau conjoint, composante de la MONUSCO et du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, a fourni un bilan détaillé de 102 civils tués dans son rapport annuel 2023 en ligne depuis janvier 2024 et transmis aux médias durant la même période.
Ndeye Khadilo, porte-parole de la MONUSCO avec Esdras Dikoumana. C'est une nouvelle désillusion pour les rescapés du génocide contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Hier, mercredi, la Cour d'appel de Paris a confirmé le non-lieu général dans l'enquête sur l'inaction reprochée à l'armée française lors des massacres perpétrés sur les collines de Bicécéro dans l'ouest du pays. À Kigali, la correspondance de Lucie Mouillot.
C'est une déception pour Eric Dzabihimana, partie civile du dossier. Rescapé de Bicécéro, l'ancien instituteur fait partie de ceux qui ont averti un convoi de l'opération turquoise des massacres sur les collines dès le 27 juin 1994. Mais les militaires n'interviennent que 3 jours plus tard. Aujourd'hui, le survivant se dit résigné.
J'ai pas été surpris par la décision de la justice française. Ça fait longtemps qu'ils ignorent la vérité qu'ils connaissent. Ça me fait mal au cœur. Si la conclusion d'Audiclerc disant que la France a commis des erreurs graves dans le génocide et qu'on ne veut même pas continuer à poursuivre les coupables, c'est déplorable.
Un premier non-lieu général prononcé en 2022 avait été annulé pour des raisons de procédure liées à la publication du rapport de l'historien Vincent Duclerc, notant l'échec profond de la France à Bicécéro. Philibert Gakwenziré, président de l'association du rescapé Ibuka.
Pour nous, nous condamnons déjà le rôle qui a été joué par ces hommes, mais nous ne devons pas laisser à cette condamnation d'ordre historique. Normalement, il devait paraître devant la justice par rapport à ce que les actes ignobles qu'ils ont commis.
Les avocats de plusieurs organisations parties civiles ont déjà annoncé qu'un pourvoi en cassation était possible. Lucie Mouillot, Kigali, RFI.
RFI, l'actualité du continent. En bref, cette fois, plusieurs attaques djihadistes distinctes au Niger ces derniers jours. Dans le sud-ouest du pays, aux frontières avec le Burkina Faso et le Mali, mardi, selon des sources sécuritaires, une cinquantaine de civils et au moins 90 soldats tués dans la localité de Chatouman, dans le département de Terra. Hier, c'est le village de Libiri qui a été pris pour cible. À la télévision nationale, l'armée dément toute attaque, évoquant des informations, je cite, saugrenues, mais elle précise que 10 soldats ont bien été tués et 7 autres blessés dans une attaque à Pételkölé. Justice, à présent, à l'international. Le procureur de la CPI, Karim Rann, a demandé au juge de reconnaître Ali Kouchaïb coupable de crimes dont il est accusé. L'ancien chef Janjaweed est dans le collimateur de la Cour pénale internationale pour des crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis en 2003 et 2004 au Darfour. Lui qui devrait prendre la parole demain au terme de cette série d'audiences historiques, puisque c'est la première fois qu'un responsable soudanais est visé par cette instance. RFI, 7h38 à Antananarive, à Madagascar. Hier, c'était le dernier volet d'un cycle de 3 élections en un an. 11 500 000 personnes appelées aux urnes pour renouveler les maires et conseillers municipaux de la Grande Île. Selon la SAFID, principale mission d'observation du pays, le scrutin a été entaché par des tentatives de fraude, notamment par l'usage de cartes électorales irrégulières, de bulletins précochés ou encore de bourrage d'urnes. À la fermeture des bureaux de vote, sympathisants ou simples curieux sont revenus assister au dépouillement sans l'effervescence des précédents scrutins. Récit de la soirée dans un centre d'Antananarive avec notre correspondante Sarah Teto.
Il est 17h, le vote est clos. Au bureau numéro 9, annonce la présidente de l'un des 16 bureaux du collège de Nansan. Autour d'elle, les assesseurs se mettent à ouvrir l'urne, à compter les bulletins, puis vient enfin le moment tant attendu. La salle se remplit progressivement. Landry et son épouse sont venus accompagnés de leur garçon.
On a amené le petit parce qu'on veut le familiariser avec comment se passe le procédure électorale.
Lalax sort d'un bureau, sourire aux lèvres. Il est venu, explique-t-il.
Pour supporter notre candidat et en même temps pour regarder ce qui se passe dans toutes les salles, pour avoir le cœur net.
Car c'est bien là la raison première pour la majorité des citoyens qui se sont déplacés hier soir. Cet électeur est très méfiant.
Depuis la présidentielle, les résultats sont truqués. Les bulletins sont modifiés la nuit. Donc, on est venu prendre des photos des résultats dans chaque bureau de vote. C'est notre seul pouvoir si on doit dénoncer quelque chose ces prochains jours.
Irine, elle, confie ne plus croire en aucune personnalité politique.
Il y a trop de micmacs lors d'élections comme ça. Moi, si j'ai voté, c'est uniquement parce que je sais que si je ne viens pas, quelqu'un peut en profiter pour signer à ma place.
Cyril, lui, essaie d'analyser les résultats.
Selon les tendances que j'observe dans les bureaux, c'est l'opposition qui est en tête. Pour moi, c'est un vote sanction.
Les procès-verbaux ont été transférés vers les centres de traitement. La CENI devrait annoncer les résultats provisoires avant Noël. Sarah Tito, Antananarivo, RFI.
Le paludisme hausse pour la cinquième année consécutive. 263 millions de cas recensés en 2023, 11 millions de plus qu'en 2022, selon l'Organisation mondiale de la santé, qui précise qu'elle touche principalement le continent africain. Christina Okello.
Sur les 600 000 décès recensés, la grande majorité frappe l'Afrique. Une hausse due à la résistance des moustiques aux insecticides, au changement climatique et au manque de financement. Le rapport souligne toutefois des avancées. Les vaccins antipaludiques introduits dans 17 pays ont permis de réduire les taux de mortalité des 13%. De nouvelles moustiquaires renforcées par plusieurs types d'insecticides sont également déployées sur le continent pour contrer la résistance. Si l'objectif de l'OMS de réduire cette maladie de 90% d'ici 2030 reste ambitieux. Des progrès notables inspirent l'espoir. L'Égypte est désormais exempte de paludisme et la déclaration de Yaoundé, adoptée en mars dernier, coordonne la lutte dans les 11 pays les plus touchés. Mais pour Adija Amani, responsable de l'introduction de nouveaux vaccins au bureau régional de l'OMS pour l'Afrique, il est urgent de redoubler d'efforts.
Il n'y a pas d'excuse que la malaria continue à tuer de nos jours. Nous avons tous les outils et à nous de mettre les bouchées doubles. Nous devons rendre la malaria, le paludisme, comme on dit en anglais, a bedtime story. Que ce ne soit plus une histoire qui empêche les enfants d'aller à l'école, mais plutôt que les enfants lisent ça dans des livres, que en cette année, il y avait ceci, il y avait cette maladie-là, ça doit faire partie du passé.
Pour sauver des vies, l'OMS mise sur une intensification des campagnes de vaccination. Le Nigeria et l'Ouganda sont déjà en tête de cette mobilisation.
Christina.